De retour à l'émission de littérature pour parler de cet excellent livre Mémoire de la jungle de Tristan Garcia qui est paru il y a un mois aux éditions Gallimard. Tristan Garcia, merci beaucoup d'être avec nous en direct au téléphone.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors ma première question, tout de suite on attaque. Qui est Dougie ?
Eh bien Dougie, qui est donc le personnage principal de ce livre, est ce que j'appellerais une chimère au sens strict. C'est-à-dire un personnage qui tient à la fois de l'animal et de l'humain, qui a une double identité, et que j'ai essayé de construire cette chimère à travers un langage, je dirais, une sorte de mélange de langage humain et de subjectivité animale, puisque c'est un être de fiction. C'est un chimpanzé au départ, qui a été éduqué comme un être humain et qui essaye de parler comme un être humain sans y arriver vraiment. Et ce qui, à mon sens, faisait l'intérêt du livre, c'était cet échec d'un animal à essayer de parler comme un homme.
Donc ça serait votre commencement, ça serait essayer d'avoir une tentative de langage.
Oui, exactement. En fait, ce qui m'intéressait, pour essayer de le dire clairement, c'est de construire, de bricoler un langage dans une tradition littéraire que j'aime beaucoup. Adolescent, j'aimais énormément Joyce, j'aimais beaucoup certains passages, pas tout, de Finnegan's Wake, j'aimais Guyotat, etc. Mais ça me semblait toujours des tentatives de construction de langage qui étaient centrifuges, c'est-à-dire qui essayaient de quitter le langage normatif, le langage humain, le langage ordinaire, pour aller vers autre chose. Et ce que j'ai essayé de faire avec ce livre, c'est une tentative centripète, c'est-à-dire partir d'une autre espèce, d'une autre subjectivité, d'un singe en l'occurrence, qui est l'autre par excellence pour nous, qui essaye de rejoindre le langage humain, mais qui, échouant en partie, produit un langage chimérique, c'est-à-dire un langage qui tend à rejoindre notre langage, qui tend pas à être autre, comme chez Guyotat ou chez Joyce, qui tend à être notre langage, mais qui n'y arrive jamais vraiment. Et j'aimais bien cette idée de bricoler un langage expérimental, mais qui ne soit pas centrifuge, qui soit centripète, qui essaye désespérément de rejoindre le langage ordinaire, le langage humain, et qui n'y arrive jamais vraiment.
Vous trouvez que Dougie n'arrive jamais à atteindre le langage humain, que c'est un échec, pour lui ou pour vous ?
Ah, alors, quand j'ai écrit ce livre, je me disais sans cesse que pour moi c'était le récit d'un double échec. C'était à la fois l'échec de mon personnage, puisque le livre est le récit au fond d'une éducation qui rate. On essaye d'éduquer un animal comme un être humain et ça rate, au moins en partie. Et que ça devait être aussi le récit de mon échec, puisque en tant qu'être humain, j'essayais de parler comme un singe qui essayait de parler comme un homme. Et le singe n'arrivait pas tout à fait à parler comme un homme, et moi je n'arrivais pas tout à fait à parler comme un singe qui essaye de parler comme un homme. Et je me disais qu'il y avait quelque chose de ce double échec qui forcément déplairait à certains lecteurs. Il y a des lecteurs qui vont concevoir que c'est ridicule, de même qu'il est ridicule de vouloir apprendre des langages humains à un chimpanzé, il est ridicule de vouloir essayer de faire parler dans une fiction un singe, c'est vrai, c'est ridicule, mais c'est assumé. Mais que, au contraire, le lecteur qui accepterait qui comprendrait en tout cas la tentative, pourrait la sauver de ce double échec, j'espère.
Je suis étonné du coup que vous parliez de votre tentative comme un échec, parce que à sa lecture, j'ai pas du tout trouvé que la langue que vous fabriquez pour Dougie soit un échec, parce que l'auditeur n'a pas votre livre comme moi dans les mains, mais pendant plus de 300 pages, nous sommes en présence de la langue de Dougie. Et ça tient 300 pages, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous en faisiez une petite tentative sur 50 pages ou sur 100 pages. C'est une tentative sur 300 pages.
Oui, c'est vrai, j'espère. Peut-être que je suis un petit peu pessimiste a posteriori, une fois le roman fini, que je noircis un peu le tableau ou la tentative. Mais ce qui, à mon avis, permet de tenir les 300 pages à la fois pour moi quand je l'écrivais et pour le lecteur, c'est qu'il y a à la fois une expérience de langage, comme je le disais, qui, à mon sens, est centripète, pas centrifuge. On essaye de rejoindre du langage humain à partir d'une autre forme de langage, dont on parlera peut-être, qui est poétique, mais qui a des origines scientifiques. Hein. Il y a des, La construction de ce langage est extrêmement pensée, très rationnelle, s'appuie sur les expériences éthologiques qui ont été faites depuis 1945. Mais je pense que ça tient les 300 pages pour un lecteur comme pour moi, parce que c'est structuré encore comme une aventure. Et ça reste structuré narrativement par, au fond, ce qui est le récit le plus classique qui soit, c'est-à-dire le bon vieux récit d'aventure, puisque la structure du livre, au fond, est une structure de nostos, comme chez Homère, où il y a la tentative de retour aventureux au foyer, qui là est la tentative de retour du singe au zoo où il a été éduqué. Et au fond, le livre est aussi structuré par tout un tas d'archétypes du roman d'aventure. En l'écrivant, je lisais énormément Stevenson, je lisais énormément London, Conrad, Poe, Jules Verne, William Golding aussi, un des modèles du livre, et c'est William Golding, mais pas Sa Majesté des Mouches, le deuxième livre de Golding, qui s'appelle Les Héritiers. Et en écrivant ce livre, j'essayais de tenir un grand écart, c'était vraiment difficile, entre cette aventure très classique, cette structure narrative qui tient du roman d'aventure classique du 19e siècle, et encore au-delà de l'Odyssée, et une expérience de langage où j'essayais de concilier, en gros, voilà, Stevenson ou Jules Verne, avec Guyotat, avec Joyce, ou avec, pour parler de choses plus contemporaines que j'aimais beaucoup, Novarina ou Cadio ou Arno Schmidt aussi, que j'aimais énormément, toutes ces expériences sur le langage. Je voulais que ça soit à la fois une aventure narrative très classique et une aventure de langage à la fois baroque, en partie expérimentale, assez risquée. Et si ça tient, en tout cas j'espère pour le lecteur, c'est à mon avis parce que ça tient les deux bouts. Voilà.
Alors, on va y revenir après sur la notion de roman d'aventure qui est effectivement assez lisible dans Mémoire de la jungle. J'aimerais encore vous poser des questions sur la langue et sur l'inspiration directe par la langue. On peut commencer par l'éthologie. L'éthologie, cette discipline, est-ce que c'est par cette discipline que vous avez créé cette langue du singe ?
Oui, avant l'impulsion poétique, je citais des références là comme Guyotat ou Finnegan-Swack. Effectivement, il y a une impulsion scientifique, puisque j'ai croisé au cours de mes études le chemin de l'éthologie. J'ai fait quelques années d'éthologie et j'ai été très fasciné parce que j'ai fait d'abord des études de philosophie classique et ben, je me suis aperçu tout simplement en faisant de l'éthologie que tout ce à quoi je tenais, tous les propres de l'homme classique auxquels je croyais, hein, moi, le rire, l'outil, le travail et le langage essentiellement comme propre de l'homme, eh ben, était totalement faux, s'effondrait, et qu'il suffisait de passer quelques mois en compagnie de grands primates, d'autres grands primates que nous, pour comprendre qu'il y avait des phénomènes qui s'apparentaient au rire, qu'il y avait non seulement de la communication mais des proto-langages, etc., etc. Et j'ai vu toute mon éducation très classique, philosophique s'écrouler, et l'éthologie m'a vraiment fasciné. Donc il y a eu un moment où effectivement j'ai lu énormément de choses là-dessus, où j'ai travaillé aussi sur les langages qu'on a appris au grand singe, et j'étais plongé dans toutes les œuvres qui m'ont fasciné, qui sont celles des époux Kellogg, des époux Gardner, de Premack, de Savage Rumbo, de Herbert Terrace, de tous ces chercheurs qui pendant une trentaine d'années ont tenté cette entreprise complètement folle d'apprendre des langages, différents langages à des singes. Et j'ai essayé dans le roman de conserver à peu près toutes les strates de cette aventure éthologique, puisque au début, en gros, ce qui correspond au moment des années 50, on apprenait aux grands singes essentiellement le langage des signes, le langage des sourds-muets. Donc ça, c'est la première strate. Puis on s'est aperçu que c'était insuffisant, c'était un langage qui était en un sens trop normatif, trop près du langage humain, qui correspondait pas à leurs besoins. Et on est passé à une deuxième phase où on leur a appris des langages qui fonctionnaient par lexigramme, sorte de figure étrange entre l'idéogramme, le hiéroglyphe et le mot. Et puis on est passé à une troisième phase à partir des années 70 où on a créé des langages artificiels pour essayer de les apprendre à des grands primates comme Washu. On a créé le Lantec, par exemple, qui est un langage absolument passionnant. Et voilà, c'est quelque chose qui est trop peu connu, mais les deux grands types de langages scientifiques qu'on a essayé de créer au XXe siècle, c'est d'une part des langages informatiques et d'autre part des langages artificiels pour les apprendre à des singes. Et je m'étais aperçu qu'il y avait d'ailleurs une origine commune, puisque les fonds qui ont permis le développement de ces études d'éthologie sur le langage pour apprendre ces langages aux grands singes étaient des fonds de l'État américain qui ont été partagés dès les années 40 avec les recherches en informatique et en intelligence artificielle. Et ça a été les deux grandes aventures de la deuxième moitié du XXe, l'intelligence artificielle d'une part et l'éthologie animale de l'autre. On pourrait dire qu'il y en a une qui a marché. On croit encore un petit peu à l'intelligence artificielle, dans le transhumanisme, etc. On ne croit plus du tout à l'éthologie animale. On ne croit plus à la possibilité d'éduquer des singes, de leur transmettre un langage. Donc il y a une des deux aventures qui a échoué. Et comme ça me fascinait beaucoup, je voulais écrire quelque chose là-dessus. Mais dans un premier temps, je voulais écrire quelque chose qui aurait été sans doute une sorte de roman trop américain, un peu baroque à la Pynchon, sur toutes ces recherches en partant de la Seconde Guerre mondiale, et faire un grand livre baroque sur à la fois IBM et les époux Kellogg ou les époux Gardner dans les années 50 en Californie. Et puis, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Et donc, progressivement, je me suis orienté vers à la fois le roman d'aventure, et puis je me suis recentré sur le langage, vraiment, essayer de créer un langage.
Et est-ce que vous en avez trouvé, là on a beaucoup parlé donc de la discipline éthologique, mais dans la discipline littéraire, dans la discipline fictionnelle, avez-vous trouvé des précédents sur lesquels vous appuyez, ou est-ce que vous avez trouvé que de la langue centrifuge et non pas de la langue centripète? Est-ce que vous avez trouvé des exemples de langue centripète qui ont pu vous aider ou vous influencer dans votre démarche?
Il y en a deux qui me fascinaient adolescent, mais que je n'ai pas relu depuis, dont je pense que ce sont des mauvais livres, ou pas des très bons livres en tout cas, mais qui m'ont marqué et dont je chéris le souvenir. Il y en a un qui est très connu, qu'on lit souvent à adolescent, c'est un livre qui s'appelle « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Case. Livre semi-science-fictionnel où, si je me souviens bien, je l'ai lu à 12 ou 13 ans, à la suite d'expériences psychologiques, on injecte une sorte de sérum qui doit rendre intelligent un enfant qui est simplé, qui parle très mal, et qui se met à parler très très bien sous l'effet de ce sérum, et puis le sérum ne marche plus, et donc il se met à perdre son langage progressivement. Et ce livre m'avait beaucoup plu adolescent, où j'avais l'impression qu'il y avait tout au long du livre l'espèce de tension du personnage qui essayait de tenir son langage intelligent, rationnel, adulte, à mesure qu'il perdait ses mots. Et je trouvais ça très beau. Je ne l'ai pas relu depuis, hein, donc il est possible que ça soit vraiment enjolivé. Et puis j'avais été très marqué par un livre de science-fiction française aussi, adolescent, qui s'appelait 15 ans Zili, de Régis Messac, sur un livre post-apocalyptique sur un instituteur très Troisième République qui est le seul survivant avec sa classe d'enfants d'un désastre atomique dans une grotte qu'il était en train de visiter, et où son éducation, il essaye de maintenir de continuer à éduquer les enfants qui tombent dans un état de sauvagerie progressivement et qui déforme le langage de la Bible, qui est le dernier livre qui leur reste. Et donc le titre, par exemple, 15 ans Zili, est la déformation de Quies in Coeli, notre père, qui est aux cieux. Et le langage qu'invente Messac est très intéressant. Mais ceci dit, ça me semble aussi des langages malgré tout centrifuges, c'est-à-dire des langages qui sont des formes de dégénérescence, ici, du post-apocalyptique, de notre langage humain. Donc des langages, comme je voulais en construire un, qui soit centripète, c'est-à-dire qui essaye un peu tragiquement de parler comme nous en venant d'une autre forme de subjectivité, d'une autre espèce, j'en avais pas vraiment en tête. Voilà.
Alors, on voit bien le triple enjeu dans Mémoire de la jungle, un enjeu de langue, bien entendu, de création littéraire au niveau de la langue. La structuration de votre de Mémoire de la jungle en tant que récit d'aventure, on est dans un roman d'aventure, et puis il y a un enjeu qui du coup là s'aperçoit vraiment à votre fin, la fin du livre est assez gigantesque, parce que c'est une fin ouverte, et c'est là-dessus que j'ai envie de vous interroger maintenant, parce que votre sujet, presque le sujet du livre, c'est l'expérimentation autour de la relation à notre propre animalité. Et alors du coup ma question, c'est quoi l'enjeu de ce singe remis dans une situation naturelle, lui qui n'a plus rien à voir avec la nature.
C'est vraiment la création d'un être qu'on laisse à mi-chemin entre l'animalité et l'humain. La thèse philosophique qui pourrait sous-tendre le livre, même si ça reste assez discret, j'espère, c'est que, à mon sens, on est passé au XXe siècle d'une structure classique où on définissait l'humain de manière verticale comme étant pris entre le divin, l'ange, comme dit Pascal, entre l'ange et la bête, avec une structure verticale. L'homme est plus que la bête, mais moins que l'ange, et donc que le divin. On est passé progressivement, vers la fin du 19e, à une structure horizontale où l'homme vient de l'animalité et va éventuellement vers le machinique, et où l'homme est pris entre l'animal et le machinique. Mais l'homme est toujours conçu, la constante, c'est que l'homme est toujours conçu comme un être intermédiaire. Et c'est cette condition d'être intermédiaire que je voulais transférer sur le singe du livre, qui est un être qu'on essaye d'arracher à l'animalité, qu'on arrache à son milieu d'origine, qu'on arrache à ses congénères, qu'on arrache à son mode de vie, qu'on éduque, puisqu'on le personnage d'Ougui très poliment mange en mettant les formes normalement avec des couverts devant une assiette, etc. Fait attention aux odeurs, se parfume. Donc on l'a arraché à son animalité, on lui a promis une humanité qui pour lui est exactement comme pour nous le divin ou l'intelligence artificielle ou le machinique, une sorte d'idéal inaccessible. Et je voulais transférer sur ce personnage le tragique de la condition intermédiaire, qui est un personnage laissé à mi-chemin. Donc une chimère littéraire et en même temps philosophiquement la condition de celui qui est abandonné au milieu du chemin, entre l'animalité et l'humain, pour Dougui.
Et alors, du coup, votre fin qui est ouverte, vous l'interprétez comme le fait que Dougui a été l'enjeu d'une expérimentation directe sur lui, ou est-ce que c'est le fruit d'une sorte de hasard qu'il se soit retrouvé dans cette situation ?
La fin est en effet ouverte, les deux sont possibles. Il y a, disons, une hypothèse narrative forte et qui rend l'humain extrêmement cruel et pervers, qui est l'hypothèse misanthrope, où tout est une expérience, l'humain est derrière tout ça, l'a manipulé, et il n'y a rien d'autre à sauver que l'innocence du personnage de Dougui, et qui s'est fait complètement avoir. Et puis il y a une hypothèse plus faible qui est que c'est une suite de circonstances, un accident, notamment l'accident du début, qui n'ont pas été voulus par son éducatrice, pas directement en tout cas, auquel cas l'homme, bien qu'ayant fait une expérience, n'est pas tout à fait manipulateur, et on peut peut-être sauver quelque chose de ses intentions. Mais les deux sont possibles. Les deux lectures du livre restent ouvertes.
Vous n'en faites pas de choix vous-même, effectivement.
Non, les deux me semblent ouvertes. Personnellement, j'en sais rien non plus. Je me sens moi-même oscillé entre des formes de misanthropie et des formes de doute qui laisse un certain crédit à l'humain et à ses intentions.
Ma dernière question portera sur ce qu'à un moment donné vous avez esquissé, vous avez dit en quelques phrases que Mémoire de la jungle, vous aviez avant préparé un autre livre qui pourrait ressembler à quelque chose d'un roman postmoderne américain qui mélangeait à la fois les recherches en éthologie aux États-Unis avec les recherches avec IBM et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'était une première matrice du livre, ou est-ce que ça, c'était quelque chose que vous avez écrit puis abandonné en cours parce que finalement, ça n'avait pas de sens pour vous, ça ne fonctionnait pas ?
Oui, ça a été, il y a eu un brouillon, en tout cas, de cette version-là possible de l'histoire, du projet. Ce n'était pas satisfaisant, notamment parce que ça me semblait vraiment américain dans l'esprit. J'avais l'impression de faire... De faire un soupinchon, clairement. Ça me plaisait pas pour ça. C'était quelque chose qui était très lié à l'histoire américaine. Je pense que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas par rapport à ma langue, qui reste la langue française, à mon histoire. Et ensuite, en effet, ça me semblait trop lié à quelque chose qu'on a maintenant assimilé, qui fait partie de l'histoire littéraire, qui est, disons, ce courant postmoderne et baroque américain. Donc ça me semblait pas convenir. Je voulais tenter autre chose qui soit à la fois plus archaïque ou plus classique en un sens, c'est-à-dire un roman d'aventure au premier degré, pas du tout postmoderne, et en même temps en un sens plus expérimental sur le langage, une expérience au long cours.
Mais cette expérience, enfin ce que vous avez entrepris là, qui n'est pas montré du coup, ça avait pris une certaine ampleur, une certaine taille, ou vous, assez rapidement vous aviez abandonné ce projet ?
Il y avait beaucoup de notes, mais ça n'avait pas une forme achevée, clairement. Mais ça aurait donné une sorte de roman somme, mais je pense assez indigeste. Je pense que ça n'aurait pas marché du tout pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et puis je pense que ça correspondait à des enthousiasmes que j'avais aussi adolescent. Enfin, puisqu'on évoque Pynchon, c'est une littérature qui me plaisait beaucoup, mais où j'ai eu l'impression qu'il fallait tenter autre chose, en tout cas qu'il fallait tenter une autre formule littéraire maintenant.
Pour vous sortir un peu de vos idoles.
Oui, bien sûr, oui. Évidemment, comme je disais, quelque chose qui me semble à la fois plus classique, puisque le récit de Mémoire de la Jungle, dans sa structure, est très classique. C'est un récit d'aventure vraiment de facture classique. Et en même temps, je voulais quelque chose en fait qui soit un roman qui soit beaucoup plus au premier degré que ces romans américains, dont tout le charme est de multiplier les sens de lecture, les degrés, jusqu'à une sorte de millefeuille de signification dans lequel on se perd. Je voulais que ça soit quelque chose de beaucoup plus primitif, de beaucoup plus innocent et au premier degré. Avec un personnage d'idiot ou d'innocent qui est ce singe, son langage très primitif, bariolé, et qui soit plus simple et plus classique, en un sens. Oui.
Merci beaucoup, Tristan Garcia, d'avoir été en direct avec nous au téléphone. Merci à vous.